12e jour, j'intitulais à la recherche du culte en esprit et en vérité par la route des sanctuaires. Autrefois, on passait par Bethel, par Silo, on allait jusqu'à Sichem pour relire le fameux récit de l'entretien de Jésus et de la Samaritaine au pied du Garizim, au puits de Jacob. Et puis on revenait par une route en bordure du désert, par Ephraim Taïbé, où Jésus séjourna dans une sorte de retraite en bordure du désert, là, entre la résurrection de Lazare et sa passion. Et puis on revenait par une route pleine d'enseignements de Jésus sur la prière, d'enseignements qui s'inscrivent entre Jéricho et Jérusalem, par le bon samaritain, Marthe et Marie, et puis le Notre Père. Alors aujourd'hui, la situation fait qu'on a changé un peu, et je garde le thème fondamental, hein, à la charge du culte en esprit en vérité par la route des sanctuaires. Voyez-vous, hier nous sommes montés à Jérusalem, et maintenant on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour parler de Jérusalem comme lieu saint au singulier. Il nous reste à partir de Jérusalem à récupérer, alors au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, par des circuits, ce qui manque encore pour connaître, pour comprendre Jérusalem. Alors aujourd'hui c'est au nord et puis à l'est, sur ce thème de la recherche du culte en esprit en vérité par la route des sanctuaires. Alors où est-ce que nous sommes ici? Eh bien, nous sommes dans les épaulements de Benjamin. Alors, quand on lit les descriptions de la géographie de Benjamin dans le livre de Josué, là, il est caractérisé par les épaulements, Kétef. Et Jérusalem fait partie des épaulements de Benjamin. C'est la GN qui est au sud, qui est la frontière entre Benjamin et Juda. Mais alors Jérusalem, on n'a jamais réussi à la prendre avant David, et c'est devenu la ville de David qui a réussi à la prendre. Alors ici nous sommes sur le principal des épaulements de Benjamin. C'est d'ici que régnait le roi Saül. On peut imaginer le petit David venant de Bethléem, là-bas au sud, et arrivant ici avec son kinnor pour guérir Saül de sa neurasthénie. Mais d'abord, voyons un petit peu la prédestination des épaulements de Benjamin. Rappelez que Moïse, avant de mourir sur le mont Nebo, formule comme la prédestination des différentes tribus. Nous allons parcourir encore de ces tribus. Alors Benjamin, il dit sur Benjamin, on trouvait ça dans le Deutéronome 33:12. Benjamin, c'est le petit dernier, vous rappelez, Rachel est morte là, et son tombeau est aussi dans les parages. On a parlé le premier jour, et il est aussi plutôt dans les parages par ici. Il dit sur Benjamin, bien-aimé de Dieu, le petit dernier, le bien-aimé. Il repose en sécurité près de lui. Et ici, vous avez le mot hébreu extrêmement riche de Shahan, hein, d'où vient Shérina, l'habitation, il demeure. En sécurité près de lui, le Très-Haut le protège tous les jours, et demeure, encore le même mot Shahan, entre ses coteaux. Et on dirait que Benjamin est prédestiné pour recevoir la présence divine. Dieu, en recherche d'hospitalité parmi les hommes, dédaigne au fond des hautes montagnes, pas du nord et du sud, sur lesquelles nous avons été butés. Nous avons rencontré Moïse et Élie. Les montagnes sourcilleuses de Bashan. Vous vous rappelez le psaume 68, un des psaumes au langage barbare qui ressemble au cantique de Déborah. Montagne de Dieu, la montagne de Bashan, montagne sourcilleuse, la montagne de Bashan. Pourquoi jalouser, montagne sourcilleuse, la montagne que Dieu a désirée pour ses jours, où Dieu demeurera jusqu'à la fin? Et alors, Dieu n'a pas non plus pris les hautes montagnes sur lesquelles nous avons buté au sud, et l'Arche d'Alliance a amené l'expérience de buisson ardent et du Sinaï dans les épaulements de Benjamin. Le dernier jour, là on lira le récit de David qui transporte l'Arche à Jérusalem. Et il y a un psaume qui reflète cet événement décisif, là, le psaume 132, garde mémoire à David. David ne veut pas entrer dans sa maison ni se reposer tant qu'il n'a pas trouvé un lieu pour Dieu. Alors l'Arche d'Alliance autour du pays des Philistins, on verra tout ça si vous ne le connaissez pas. Nous l'avons découverte au champ du bois, c'est Kiriath Yéharim. Alors David va la chercher après la prise de Jérusalem, il la ramène solennellement, et puis Dieu a fait choix de Sion. Il a désiré ce lieu pour lui, c'est ici, a-t-il dit, mon repos à tout jamais, c'est là que je siégerai, car je l'ai désiré. Vous voyez, Dieu n'a pas pris le Sinaï, il a pris Sion. Et le psaume 68, justement, continue comme ça. Il parle, après avoir parlé des montagnes sourcilleuses de Bashan, il parle des équipages de Dieu, des milliers de myriades. Le Seigneur est venu du Sinaï au sanctuaire, du sanctuaire de Sion. Sentez, tout notre itinéraire s'est inscrit entre ces deux montagnes du nord et du sud, et maintenant, nous arrivons au principal. Et vous voyez comme la géographie reflète ce thème dont a parlé le célèbre jésuite, la Varion, l'humilité de Dieu, la géographie. Dieu dédaigne les hautes montagnes, il cherche parmi les épaulements de Benjamin le lieu de son repos. Et parmi les épaulements de Benjamin, il va prendre ce trou autour duquel on va tourner dans une liturgie finale au sommet de Jérusalem que des collines entourent. C'est là ce lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Alors, quels sont les textes qui nous sont proposés ici? Oui, tenez, regardez, géopolitiquement, ça a tout pour réussir. Regardez la vue. Quand il fait clair, on voit de la mer morte jusqu'aux abords de la Méditerranée là-bas. Et les Benjaminites ont choisi ce lieu pour y faire leur capitale, obéissant à de simples motifs géopolitiques. Et ici, nous sommes dans le... ce n'est pas les ruines, mais un bâtiment inachevé. C'est un palais que le roi Hussein a commencé à construire avant la guerre des Six Jours, à l'époque où il régnait à la fois sur la Transjordanie et la Cisjordanie. On dit que c'est le célèbre archéologue Albright qui lui aurait dit « Faites-vous donc un palais ici, vous ressemblez beaucoup à Saül, qui dominait à la fois sur la Transjordanie et la Cisjordanie, ou qui avait des habitants en Transjordanie. » Alors il aurait fait une terrasse comme ça, vers la Cisjordanie, puis une terrasse vers la Transjordanie. Bon, moi je crois que c'est tout simplement, enfin, je ne sais pas s'il avait une grosse culture biblique, il a obéi à des motifs géopolitiques simplement, hein, comme les Benjaminites il y a trois millénaires. Alors, prenons ce que les textes, bah, jouons le jeu de la Bible sur le terrain, et prenons les textes tels qu'ils se présentent. Vous avez d'abord un texte épouvantable. Ce Dieu en recherche d'hospitalité parmi les hommes, eh bien, ici même se passe une histoire épouvantable, pire que Sodome et Gomorre. Et encore une fois, bah, je mets l'épine en plat exprès, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, là où ils en sont. Et il descend très bas pour nous faire monter très haut. Et j'ai l'impression quelquefois de n'être né que pour dire ça. C'est tellement important. C'est tellement important. Et alors, pour être sûr d'être bien embrayé dans cette route de la recherche du culte en esprit et en vérité, eh bien, Dieu descend très bas. Dieu en cherche d'hospitalité. C'est sur cette route, peut-être, que la Sainte Famille a cheminé dans la nuit de Noël, hein, la route de Bethléem et Frata, nous la contemplons ici, qui laisse Jérusalem là-bas dans le trou sur le côté. Dieu en recherche d'hospitalité pendant la nuit de Noël. Bon, alors, un épouvantable récit que vous irez lire à la fin du livre des Juges. Il n'y avait pas encore de roi en Israël, il y a un lévite de la montagne d'Éphraïm, regardez par là vers le nord, hein, et alors il vient et il a une concubine qui est à Bethléem. Vous remarquerez qu'il y a des liaisons entre Bethléem et Frata. Hein, vous voyez, la montagne d'Ephraïm et Bethléem, et puis Jérusalem court-circuité, la route continue sur Bethléem directement. Alors il se brouille avec sa concubine, ça arrive, des histoires, des querelles de ménage, hein, qui retournent chez son papa. Alors au bout d'un certain temps, il a envie de se réconcilier avec elle, il va la chercher pour lui parler au cœur, dit le texte. Alors il y a une histoire d'hospitalité, il faut se méfier, dans ce pays on accepte une tasse de café, ça peut durer des heures. Là ça dure des jours. Alors mais reste donc ici, restaure-toi, mange un morceau, tu partiras demain, et puis ça dure comme ça. Le quatrième jour, il est déjà tard, hein. Et alors au début de l'après-midi, il décide de partir quand même. Et puis alors, en fin de journée, il arrive aux environs d'endroit où nous sommes. D'abord à Jérusalem, son compagnon lui dit, mais faisons donc un détour pour aller dans cette ville pour passer la nuit. Il dit, non, d'abord c'est une ville de païens. Et vous comprendrez mieux quand vous aurez vu la situation de la ville jébusienne. Elle est au fond d'un trou, c'est pas tout de descendre, il faut encore après ça remonter. Et alors il dit, non, on va continuer. Et ils arrivent ici au coucher du soleil à Gibea, ils savent pas, Gibea ou Rama, oui, on est entre Gibea ou Rama, dans les épaulements de Benjamin. Et alors ici, les Benjaminites ne lui offrent pas l'hospitalité. Et ça, vous savez, l'hospitalité, c'est une vertu cardinale. Quand on ne donne pas l'hospitalité, on peut penser qu'il va se passer des choses mauvaises. Alors il y a un vieillard, là, qui n'est pas de la tribu de Juda, qui dit, mais passe pas la nuit sur la place, viens chez moi, tu vas trouver tout ce qu'il faut. Alors il lui donne l'hospitalité, et pendant la nuit... Alors, une histoire pire que Sodome et Gomorre, vous irez la lire. À la fin du livre des Juges, chapitre 19. Alors, au matin, le Lévite, là, il trouve sa femme morte sur le pas de la porte. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit? La Bible ne le dit pas. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit. Enfin, c'est comme ça, je constate, on peut pas inventer des histoires. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur son âne, il rentre chez lui, il prend son couteau, il la coupe en morceaux, en 12 morceaux, et puis il envoie les morceaux aux tribus, qui disent, on peut pas laisser ça passer. Hein. Alors, tous les Israélites se réunissent, a-t-on jamais vu chose pareille depuis le jour où nous sommes montés d'Égypte? Réfléchissez, consultez, prononcez. Jamais chose pareille n'est arrivée. Et alors on décide de venger contre la tribu de Benjamin. Alors les Benjaminites se défendent bien contre la coalition qui se monte contre eux. Écoutez ça ici. Il y avait 700 hommes d'élite gauchers. Et tout ceci, avec la pierre de leur fronde, était capable de viser un cheveu sans le manquer. Il faudrait demander à Anne de dire ça. Bon, alors ils se défendent bien, mais on réussit quand même à les prendre au piège. Alors, on fait semblant, comme d'habitude, de faire une offensive. Il y en a d'autres qui se mettent en embuscade de l'autre côté. Les Benjaminites vont contre la pseudo-offensive. Et puis, quand ils se retournent, ils s'aperçoivent que leur ville est en feu. Alors, il y a des rescapés qui vont se réfugier dans une grotte. Hein. Une grotte qu'on va voir dans le paysage. Enfin, si on lit ce récit, on a tout le paysage qu'on devrait faire, là, du côté de Ramon, par là. Alors, les Israélites se réunissent de nouveau et ils disent, bah, il fallait le faire, hein, une chose comme ça, il fallait le faire. Il n'y a plus que 700 rescapés, ceux qui ont trouvé refuge dans la grotte, là-bas, et il n'y a plus de femmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Benjamin, c'est un salaud, c'est vrai, mais c'est notre petit frère. Hein, il faut tout de même que la tribu se reproduise. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils avaient tous juré de ne pas donner leur fille à ces Benjaminites. Alors, ils se rappellent qu'il y en a là-bas, à Yabesh en Galade. Ils habitaient à Tamar, ils n'avaient pas eu le temps de venir. On va chercher les filles de Yabesh en Galade, mais il n'y en a pas encore assez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se consulte longuement. Hein, et puis on envoie un parlementaire là, aux réfugiés dans la grotte et on leur dit écoutez, on ne va pas vous donner nos filles, c'est pas possible, on a juré de ne pas le faire, hein. On ne peut pas, mais rien ne vous empêche de les prendre. Et, alors il y a justement une fête à Silo et on vous donne les coordonnées topographiques comme dans le guide Michelin de Silo. La ville se trouve au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem, au sud de Lévona. Vous voyez dans la Bible, on a vraiment des indications topographiques extrêmement précises. Alors il recommande aux Benjaminites, allez donc vous mettre en embuscade dans les vignes, vous guetterez, et lorsque les filles de Silo sortiront pour danser en chœur, vous sortirez des vignes, vous enlèverez pour vous chacune une femme parmi les filles de Silo et vous vous en irez au pays de Benjamin. Et si leur père ou leur frère viennent nous chercher querelle, nous leur dirons accordez-la nous, car nous n'avons pas pu prendre de femmes pour chacun dans le combat, et vous ne pouviez pas les leur donner, car alors vous auriez été coupable. Pour nous remercier, on vous invitait de faire un péché. Et c'est comme ça que se termine le livre des juges, espèce d'enlèvement des Sabines.